Le cercle rouge de Edgar Wallace. Chapitre 41. L'ineffaçable cercle rouge. Yel n'apprit rien de nouveau à la préfecture. Il se rendit alors à son bureau particulier qui n'avait pas reçu sa visite depuis 2 jours. À son avis, l'évasion de Talia Drummond était une affaire beaucoup plus grave que Parr n'avait semblé le croire. Parr. Qu'importait ce que pensait ce brave homme? Et pourtant, à ce moment, une terrible pensée lui vint. Parr. Ce gros et placide bonhomme. C'était impossible. Yel secoua la tête et cependant se mit résolument à rassembler dans son esprit tous les événements auxquels le chef de la sûreté avait pris part. Elle conclut par le même mot, impossible. Tout en réfléchissant ainsi, il arriva à son bureau. La première chose qu'il remarqua en ouvrant la porte fut que sa boîte aux lettres était vide. C'était une très grande boîte apposée à l'intérieur de sa porte et arrangée de telle façon que tout pli ou petit paquet jeté de l'extérieur glissait sur des lames d'aluminium en forme de palette tournante, de sorte qu'il était impossible aux professionnels de la pêche aux boîtes aux lettres de tirer le moindre profit de celle-ci. Cependant, elle était vide. Il n'y avait pas la moindre circulaire, pas le plus insignifiant imprimé. Il entra dans son bureau particulier. Il n'eut qu'un pas à faire pour comprendre ce qui était arrivé. Tous ses tiroirs étaient ouverts. Le petit coffre-fort placé à côté de la cheminée avait été forcé. Il alla droit à sa table, sous laquelle se trouvait une cachette pratiquée entre 2 tiroirs et qu'un expert seul eût pu deviner. C'est là qu'il avait placé les plus importants documents relatifs au cercle rouge. Il n'aperçut à sa place qu'une planchette brisée et la marque du ciseau qui avait fait sauter la petite serrure de sûreté. La cachette était vide. Il demeura longtemps, immobile, les bras croisés, les yeux baissés. Inutile de réfléchir longtemps. Il savait qui avait fait le coup. Néanmoins, il procéda à une petite enquête. Et la première personne qu'il interrogea, le liftier, leva tous ses doutes. « Oui, sœur, lui dit-il. « Votre secrétaire est venue ce matin peu après l'ouverture des bureaux. Elle n'est restée qu'une heure, puis elle est descendue. Avait-elle un sac ?»« Oui, sœur, un petit sac-valise. »« Merci, » fit Yel. Il s'en alla conter la chose au tranquille et débonnaire chef de la sûreté. Puis il ajouta « Je vais maintenant vous dire, Parr, une chose que je n'ai même pas encore confiée au préfet. Selon toute probabilité, le cercle rouge est dirigé par un homme. J'ai pu savoir que Talia Drummond connaît cet homme. Mais ce que je sais aussi, c'est que, loin de le servir et de lui obéir, c'est elle qui lui donne des ordres, qui règle les tâches de chacun, qui est en fait le centre. Le cerveau de toute l'organisation.
Juste ciel ! S'écria Parr.
Vous vous étonniez que je l'ai prise à mon service ? Je vous ai répondu que je pensais atteindre par elle l'âme même du cercle rouge. J'avais raison.
Mais pourquoi l'avez-vous renvoyée ?
Parce qu'elle a commis une faute qui méritait son renvoi. Si j'avais passé là-dessus, elle aurait deviné que j'avais une raison cachée de la garder.
J'aurais pu cependant m'épargner ce scrupule, ajouta-t-il en souriant, car son travail de ce matin montre qu'elle connaissait le dessous de mes cartes.
Il s'arrêta une seconde, puis reprit d'une voix dure.
Quand vous aurez achevé votre démonstration ce soir, devant ces messieurs du gouvernement, j'aurai à ajouter quelque chose qui vous surprendra.
Rien de ce que vous pourrez dire ne me surprendra jamais,
dit flegmatiquement Parr.
À son retour à son appartement, Derek Yell eut une nouvelle surprise. En deux actes. D'abord, il constata que sa domestique était absente. C'était une femme qui venait chaque jour de 9h du matin à 9h du soir. Or, il n'était que 6h. Il alluma l'électricité et eut vite vu que son appartement avait reçu la même visite que son bureau. Et de la même visiteuse, évidemment. À ce moment, la femme de ménage rentra et lui apprit qu'elle avait reçu de lui, dans la matinée, un billet la priant de venir le retrouver en un petit village à 2h de la ville. Elle était très étonnée de ne l'avoir pas rencontré.
Ah, Talia Drummond avait eu tout le temps voulu pour inspecter les lieux. « Quelle est habile !» s'écria Yell, tout haut et du fond du cœur. Il l'admirait sincèrement. En moins de 12h, elle s'était évadée de sa cellule, avait cambriolé le bureau et l'appartement de Yell et s'était emparée de documents qui avaient une importance vitale pour l'affaire du Cercle Rouge. Il s'habilla avec soin en se demandant ce que cette surprenante jeune fille allait faire ensuite. Quant à lui, son plan était net. D'ici 24h, Parr serait révoqué. Il prit un revolver dans son tiroir, le tint un moment à la main, comme s'il hésitait, puis le glissa dans sa poche. Oui. Le dénouement allait se produire. Un dénouement sensationnel et tout à fait imprévu.
Dans l'antichambre du Premier ministre, il aperçut un personnage dont la présence l'intrigua. Jack Beardmore, en effet, bien que fils d'une victime du Cercle Rouge, n'avait pas été mêlé aux plus récents événements.
« Vous devez être surpris de me voir ici, » dit Jack en riant. « Mais je vous assure que je l'ai été plus encore en recevant une convocation. »
« Qui vous l'a envoyé ?
Parr ? Non, le secrétaire du ministre. Mais je crois que c'est à l'instigation de Parr. »
À ce moment, un jeune et brillant attaché de cabinet survint et fit entrer les deux hommes dans un grand salon d'aspect sévère et où une douzaine de personnages en deux groupes causaient entre eux. Le Premier ministre vint à la rencontre des nouveaux arrivants.
« L'inspecteur Parr n'est pas encore là, » dit-il à Yell.
Puis, se tournant vers Jack,
« Monsieur Beardmore, je pense. Monsieur Parr a insisté sur la nécessité de votre présence. Je suppose qu'il jettera quelques lumières sur les causes de la mort de votre pauvre père, que j'ai intimement connu. »
Parr arriva à cet instant. Il était en redingote noire, pas très neuve. Il avait adopté un faux col rabattu très bas qui faisait paraître sa face encore plus large et plus ronde. Assurément, sa bonne grosse personne détonnait un peu au milieu de ces intellectuels raffinés. Mais il ne semblait pas du tout mal à l'aise. Le préfet entra quelques secondes après, adressa un léger signe de tête à part et alla s'asseoir à côté du Premier ministre. Ils échangèrent quelques mots à voix basse, puis le préfet s'approcha de Yel.
Avez-vous quelque idée de ce que va nous dire Parr ?
Lui demanda-t-il avec un peu d'impatience.
Il paraît que c'est lui-même qui a proposé de nous faire l'historique de l'affaire du Cercle Rouge. J'espère qu'il ne se moque pas de nous.
Je suis sûr que non, interrompit Jack avec une certaine chaleur.
Le préfet regarda le jeune homme d'un air un peu scandalisé et interrogateur.
Yel s'empressa de lui présenter le jeune Beardmore.
Je suis d'accord avec M. Beardmore, ajouta-t-il. Je n'appréhende aucun enfantillage de la part du chef de la sûreté. Je pense qu'il va nous montrer en quoi de nombreux événements, très divers d'apparence, se relient et se tiennent. Et s'il est encore bien des éléments inconnus dans la chaîne de ces événements, je suis prêt à fournir, si possible, les chaînons manquants.
Cependant, les ministres s'étaient rassemblés autour de la grande table centrale. Et le premier fit signe à part de s'approcher.
« Si vous le permettez, sœur,
dit le chef de la sûreté,
je préférerais rester où je suis. Je ne suis pas un orateur. Et je voudrais parler tout simplement, comme si je conversais avec l'un de vous. »
Il s'éclaircit la voix et commença. D'abord, il hésita, s'arrêtant une fois ou deux, cherchant ses mots. Mais à mesure qu'il entrait plus avant dans le vif de son sujet, il parlait de plus en plus clairement.
Le cercle rouge, commença-t-il, est le surnom d'un certain Lightman, un criminel qui, après avoir commis plusieurs assassinats en France, fut condamné à mort par la cour d'assises de Toulouse, mais eut la vie sauve grâce à un mauvais fonctionnement de la guillotine. Il s'appelle Ferdinand Walter Lightman, et au moment de sa condamnation à mort, il était âgé de 23 ans. À la suite d'une macabre maladresse du bourreau, il fut ramené en prison, puis déporté au bagne de Cayenne, d'où il s'évada en tuant un gardien. On croit qu'il passa en Australie. Un individu d'un autre nom, mais répondant à son signalement, a travaillé dans un entrepôt de Melbourne pendant 18 mois. Puis chez un colon du nom de MacDonald pendant 2 ans et 5 mois. Il quitta précipitamment l'Australie, étant sous le coup d'un mandat d'arrêt pour tentative de chantage au détriment de son patron. Nous n'avons pu suivre sa trace subséquente jusqu'au moment où parut en Angleterre un maître chanteur inconnu et mystérieux qui signait ses lettres de menaces et se laissait appeler du nom de Cercle Rouge. Ce malfaiteur réussit par sa patience, ses soins méticuleux, son énergie et son intelligence à s'associer un grand nombre d'agents dont il ne se faisait pas reconnaître et qui ne se connaissaient pas non plus entre eux. Sa méthode consistait à chercher des gens en mauvaise posture, qui avaient besoin d'argent, ou craignait des poursuites pour quelque indélicatesse. Il s'entourait de tout renseignement possible avant de s'aboucher avec l'un d'eux. Puis, il le convoquait dans un square qui avait l'avantage d'avoir plusieurs sorties et d'être faiblement éclairé. Vous savez, sœur, que nos squares de Londres sont misérablement privés de lumière. L'entrevue avait lieu dans une auto fermée et conduite par le Cercle Rouge lui-même, masqué. Il recrutait aussi des repris de justice, d'esprit simple et borné, comme le matelot Sibley,
tout indiqué pour servir ses desseins. De simples voleurs, comme... »
Il hésita une fraction de seconde.
« Comme Talia Drummond. » C'est ainsi qu'il put faire assassiner le directeur d'une compagnie de chemin de fer par un noir, M. Bernemore Parsibly. Il prit aussi à son service le banquier véreux Brabazon et était sur le point de convoquer Félix Marle. Mais ce dernier se trouvait être justement un ancien complice de Lightman, dit Cercle Rouge. Et Marle le reconnut malheureusement lors d'une rencontre inattendue. Ce fut l'arrêt de mort de Marle, qui fut assassiné, vous vous en souvenez, avec une habileté vraiment inouïe.
Parr avait désormais conquis son auditoire. Et tout le monde l'écoutait avec le plus vif intérêt.
Vous comprenez, sœur, poursuivit-il. Le Cercle Rouge.
Pourquoi se donnait-il ce nom ? Interrompit Derrick Yell tout à coup. Le chef de la sûreté, comme pris de court, fut un moment avant de répondre.
Il s'appelait Cercle Rouge,
répondit-il enfin très lentement,
parce que ce surnom lui avait été donné par ses camarades bagnards. En effet, il avait au cou une envie, ou marque rouge naturelle en forme de cercle. Et je vous casse la tête si vous bougez.
Il s'était levé et avait posé sur l'oreille de Yell le canon d'un revolver de gros calibre.
« Oh les mains !»
fit-il encore, tandis que de la main gauche, d'un geste brusque, il arrachait à Yell son haut faux col, sous lequel apparut, rouge, d'un rouge de sang, l'indélébile cercle rouge.